Europe 1.
Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Une histoire assez incroyable aujourd'hui. Une jeune fille de 18 ans qui a un accident de voiture, qui se retrouve dans le coma et qui se voit d'en haut et qui voit un tunnel séduisant, attirant, la mort. Et qui, au lieu de se laisser entraîner dans ce tunnel, s'accroche à une corde, la vie, et sort du coma. Et à partir de là, commence une lente reconstruction. C'est votre histoire, Christelle Cana-Caillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous l'avez raconté dans un livre paru chez O Éditions il y a 10 ans de cela. Je suis sorti de mon corps, et que chacun pourra trouver sur Internet, car les livres désormais poursuivent leur vie, même lorsqu'ils ont été passés par les maisons d'édition au pilon. Et évidemment, je serais très intéressé par ce que vous avez à dire sur tout ça, 10 ans après. C'est très intéressant de faire ça avec l'effet de décalage. Voici votre histoire. Je l'ai écrite avec Christophe Dumazer, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Nous sommes le lundi 8 juin 1992, en milieu d'après-midi, dans un village des Yvelines, pas très loin de Versailles. Christelle, qui a 18 ans, passe son bac dans une semaine.
Maman ! Je sors ! Oh, mais enfin Christelle, t'es déjà sortie hier soir. T'as le bac dans 8 jours, je te rappelle. Mais je révise, maman. Oh, moi, j'aime travailler la nuit. Mais là, j'ai besoin de décompresser.
Décompresser. La vérité, c'est qu'elle veut passer un peu de temps avec son petit copain, Joe, et ses potes. Et d'ailleurs, les voilà. Ils arrivent à 2 voitures. Hector, le meilleur copain de Joe, conduit la Fiat Uno blanche de ses parents. Et dans une autre voiture, arrive Stéphane, le cousin de Joe, avec Zoé, sa nouvelle petite copine.
On monte tous avec Hector ? Hein, ça sert à rien de prendre 2 caisses.
Et les voilà donc, tous les 5, en route vers des étangs voisins pour une balade au soleil. Et vers 5h30, ils décident de rentrer. Christelle monte à l'arrière entre Zoé et Stéphane, et les voilà qui reprennent la route pour rentrer. Fenêtre grande ouverte, la musique à fond.
Moi, je voudrais être en charge, m'enfronter contre tes bas.
Un copain les suit à moto, ils font un peu la course.
Arrête Hector, putain! Tu vas nous tuer!
Je te jure.
Ce qui s'est passé après, difficile à dire. La voiture rate le virage, elle bute sur le talus. Devant, Joe et Hector sont éjectés. Derrière, les 2 qui sont près des portières sont éjectés eux aussi. Et Christelle reste coincée. Et la voiture fait plusieurs tonneaux. Et elle finit sa course dans un champ de blé. Et au dernier tonneau, Christelle est éjectée à son tour. Au passage, son crâne va fracasser la lunette arrière. Et après ? Après, c'est elle qui le raconte le mieux. Mais où je suis passé? J'entends qu'on m'appelle. Je peux pas leur répondre. Je me lève, je vais vers eux. Je suis là. Ils ne me voient pas. Et la sensation étrange tout d'un coup, je me vois. Je ne comprends pas tout de suite, je m'observe. J'ai le même t-shirt noir, j'ai la même jupe bordeaux à petits boutons. Mais je me sens différente. Je vole au-dessus de mon corps. À terre, je suis encore complètement disloqué, recouvert de sang, le visage souillé. Et je dors. Mais moi, je vais bien. Je n'ai pas une égratignure, ma jupe n'est même pas déchirée. Je me vois 2 fois. Et ils ne me répondent pas. S'ils ne me répondent pas, c'est que je suis morte. Je suis morte.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une expérience de mort imminente. L'histoire de quelqu'un qui a un accident et qui, d'en haut, se voit mort. C'est l'histoire qu'a vécue Christelle Cahanin-Caillot et qu'elle raconte dans un livre paru en 2009 chez O Éditions. Je suis sortie de mon corps. Christelle a un accident de voiture avec des copains dans la région de Versailles le 8 juin 1992. Une sortie de route, les quatre copains sont éjectés et elle est éjectée la dernière après plusieurs tonneaux. Elle raconte qu'à partir de ce moment-là, elle se voit, elle voit son corps à terre. Mais enfin, venez, je suis là! Au bout de quelques minutes, je vois Joe. Il vient me retrouver. Il veut me réanimer. Il pose ses mains sur mon corps, il me fait un massage cardiaque. Et mon cœur repart. Le petit copain Joe est secouriste. Il a réussi à faire repartir son cœur. Mais Christelle est dans le coma. On vient d'appeler les pompiers. Joe appelle sa mère, qui appelle les parents de Christelle. Ils habitent tout près. Ils sont là avant les pompiers. Les pompiers sollicitent tout de suite le SAMU. Et peut-être même un hélicoptère.
Je suis en présence d'une jeune fille de 18 ans, en arrêt respiratoire après un accident de circulation. Nous sollicitons le SAMU. Il nous faudra probablement un hélico pour l'évacuer, à vous.
Le SAMU arrive. Ça dure des heures. Les parents devant le camion à attendre. Personne ne leur a rien dit de la gravité de la situation.
Prévenez la réanimation. Nous amenons une patiente, sexe féminin, âge 18 ans. Avec comme premier signe hémorragie interne, traumatisme crânien avec coma d'emblée et abdomen en défense. La patiente est sédatée, intubée et ventilée par voie orotrachéale.
Madame, monsieur, nous allons transférer votre fille à l'hôpital. Venez avec nous. Finalement, ça ne sera pas en hélicoptère. Trop risqué. À l'hôpital de Dreux, le verdict tombe.
Traumatisme crânien, Glasgow à 6, coma d'emblée, œdème cérébral diffus.
Christelle est aussi cassée de partout. La cage thoracique enfoncée, fracture du bassin au pluriel, fracture du nez, épanchement du sinus gauche, hémorragie au niveau des bronches et de l'estomac. Elle est très mal en point. Très mal en point. Et là, je les vois. Ces hommes et ces femmes en blanc qui s'affairent autour de moi, je les vois. Et je me vois aussi. Et je les appelle encore et encore, et ils ne me répondent pas. Ils ne m'entendent pas. Je m'aperçois que je suis en train de quitter mon corps, parce que je vois un bout de corde. Vite, parce que si je la lâche, j'ai l'impression que je n'aurai pas de seconde chance. Et puis arrive le moment où il faut dire les choses aux parents. La mère n'a pas réalisé, elle dit.
Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle pourra passer son bac?
Le médecin regarde le père.
Je ne veux pas vous mentir. La machine la maintient en vie artificiellement, n'est-ce pas? Votre fille peut nous quitter d'un moment à l'autre.
Je suis dans un tunnel. Clair, lumineux. Et tout au bout, il y a un brouillard blanc. C'est difficile d'expliquer ce brouillard magique avec des mots. C'est un brouillard de spiritualité qui s'imprègne de nous quand on s'en approche. La mort ne fait pas mal, au contraire. Quand on s'en approche, on se sent bien, oh bien. Et je vois la corde comme une longue rampe qui s'enfonce vers la brume. Je ne suis pas forcé, mais j'ai le choix. Mais si je lâche, je me laisse entraîner. Et moi je tire sur la corde pour sortir de ce tunnel. Ça fait mal. Et quand je tire moins, je me sens attiré vers le fond du tunnel. Et là, j'ai moins mal. Ses parents viennent la voir en réa. Bonjour, ma chérie. C'est papa, maman. Et là, ils sortent un magnétocassette. Ta copine Melinda nous a prêté une cassette que t'écoutais le mois dernier, avec elle. Je ne sais pas qui a eu la bonne idée de leur dire que quand on est dans le coma, on entend tout. Mais il a eu bien raison. D'ailleurs, tous ceux qui viennent me voir ne savent pas que les secrets qu'ils me confient, je les enregistre. Et plus tard, je leur dirai, tu te rappelles quand tu m'as dit ça? Christelle s'accroche à sa corde, c'est-à-dire à la vie. Elle s'accroche à sa corde pendant des semaines et des semaines. Elle dit qu'elle voit le médecin, pessimiste. Sa petite sœur qui tombe dans les pommes à chaque fois qu'elle vient. Et son père qui vient le jour de la fête des pères. Bonjour ma chérie. Aujourd'hui c'est la fête des pères. Je sais que tu penses à moi. Et là, comme un cadeau, je décide de lui montrer que je ne suis pas morte. Alors je tire sur la corde. J'ai mal, mais je tiens. Et je lui serre le doigt. Et maintenant, ils savent qu'un jour, je reviendrai. Les jours passent. Et un jour, j'arrive enfin au bout de cette maudite corde. Je rentre dans mon corps. Aïe! 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 J'arrache les tuyaux que j'ai dans le nez et dans la bouche et qui me gênent depuis si longtemps.
Appelez un médecin et appelez les parents. C'est un miracle, elle se réveille.
Quand les parents arrivent, le patron du service les embrasse presque.
C'est du jamais vu, du jamais vu. Elle a eu un courage et une force extraordinaire. Elle a tout arraché, vous vous rendez compte? Dans la gorge, dans le nez, les draps sous les bras. C'est un miracle, messieurs, dames. Un miracle.
Christelle est sortie du coma au bout de 5 semaines. Au début, elle est aveugle. Mais la vue lui revient assez vite. Elle ne parle pas bien. Il n'y a que ses parents qui la comprennent. Mais ses parents... Elle ne les reconnaît pas. Sa mémoire s'est effacée. Elle est comme un bébé. Elle doit tout réapprendre. Et donc, elle part en centre de rééducation.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui une expérience de mort imminente. L'histoire de quelqu'un qui a un accident de voiture et qui, d'en haut, se voit mort. C'est l'histoire qu'a vécue Christelle Cahanin-Caillot et qu'elle raconte dans un livre paru en 2009 chez O Éditions. Je suis sorti de mon corps. Christelle a un accident de voiture dans la région de Versailles en juin 1992. Elle raconte qu'à partir de ce moment-là, elle se voit. Elle voit son corps à terre. Dans le coma, elle entend ce que disent ses visiteurs. Et elle raconte qu'elle doit s'accrocher à une corde pour ne pas se laisser entraîner dans le tunnel de la mort, qui est merveilleux. Au bout de 5 semaines, elle parvient à s'extraire du coma et arrache d'un coup les tuyaux qui la maintiennent en vie. Au réveil, sa mémoire s'est effacée. Elle est envoyée dans un centre de rééducation. Quand Christelle se réveille au centre de rééducation, elle dit qu'elle a comme une révélation. Elle vit dans un monde parallèle. Mes parents, se disent mes parents. C'est vrai qu'ils leur ressemblent, physiquement. Mais il y a quelque chose d'étranger en eux. Ces faux médecins, là, ils ont endormi mes jambes pour que je ne me sauve pas. Pourquoi ils ont fait ça? Mais elle perçoit l'amour que ses parents, qu'elle ne reconnaît pas, ont en eux. Elle perçoit leur bonté.
Allez, ma puce, il faut manger. Ça va être froid.
Elle entr'ouvre les lèvres. Elle mâche un peu avant de déglutir. Ça n'a pas de goût. Elle ne reconnaît pas le goût. veux regarder la télévision, ma puce ?
La mère allume, elle lui tend la télécommande. Et Christelle fourre la télécommande tout de suite sous l'oreiller.
Mais pourquoi tu fais ça ? En vous venez moi ! J'ai la télécommande et plus joue oreiller. Les extraterrestres m'ont tué.
Et Christelle voit que sa mère est choquée par ces phrases, que sa mère a peur, mais qu'elle ne laisse rien paraître. Ils ont compris qu'elle n'est pas dans son état normal. Et c'est logique, elle prend tellement d'antidouleurs et tellement d'anxiolytiques. Quand Christelle arrive au centre, les médecins lui donnent entre 4 et 5 ans d'âge mental. Elle n'émet que des sons gutturaux. Et elle bave. Et pour écrire papa sur une feuille A4, il lui faut toute la feuille. Alors elle fait de la kiné, de l'orthophonie, de l'ergothérapie. Un matin, vers 10h, le docteur X vient la chercher dans sa chambre.
Bonjour Christelle.
Bonjour.
Il pousse son fauteuil, il traverse le couloir bleu, puis le violet, et il la fait descendre au sous-sol, dans une pièce exiguë où des machines ronronnent. Il la porte sur une table en fer, il règle ses appareils de radiographie, il lui écarte les jambes, et il fait pénétrer ses doigts dans son intimité.
Et là, elle panique, elle crie, elle trouve la force de se jeter dans son fauteuil et de partir en hurlant « Au viol ! Au viol !»
Une infirmière arrive, elle demande au médecin ce qui se passe.
Oh, c'est rien, j'ai voulu lui faire une radio des adducteurs, elle a des ostéums qui s'ossifient sur le pubis. Mais j'ai pas eu la délicatesse de lui expliquer, elle a pris ça pour un viol.
L'infirmière essaye de la calmer, elle appelle les parents.
Oui, venez, venez vite, Christelle a eu un petit malentendu pendant ses radios, elle affabule, on peut plus la contrôler.
Les parents arrivent et ils la croient. Ils la ramènent à la maison, le temps d'éclaircir les choses. Christelle a très mal vécu le fait d'être prise pour un objet, sans explication, parce qu'elle est grabataire. C'est normal en vérité. Les médecins appellent ça des affabulations dues aux lombes frontaux écrasées. C'est caractéristique de l'après-coma et des différents traumatismes crâniens. Et chez elle, elle continue de les voir, ces hommes blancs qui lui font peur. Et qui veulent la tuer. Six jours après ce malentendu qui s'est dissipé, Christelle retourne au centre. Elle est avec sa petite sœur Marie-Laure dans sa chambre. Une infirmière rentre.
Salope ! Mais qu'est-ce qu'il y a, Christelle ? Elle est méchante ! Elle vient me piquer les gâteaux que maman m'a apportés !
Au fond d'elle, Christelle est persuadée que tout le monde est contre elle. Un médecin tente d'expliquer ça aux parents.
Si elle est désagréable avec tout le monde, c'est parce qu'elle est dans son monde à elle. Elle ne vit pas dans la réalité. Elle n'a pas de repère dans le temps, par exemple, puisqu'elle ne se souvient pas de ses proches, de sa vie, de son enfance. Elle ne vit que par émotion, si vous voulez, sans réfléchir. Son caractère est en train de se recréer. C'est comme un nouveau-né.
Il va lui falloir tout réapprendre. Et le temps passant, ça va mieux. Elle a moins peur. Elle a grandi. Elle dit que maintenant, elle a 15 ans d'âge mental. Plus que 3 ans à rattraper. Et le week-end, elle a le droit de sortir. 2 jours de permission. Mais elle ne reconnaît toujours pas sa maison. Et elle découvre ce qu'est la vie d'handicapé en fauteuil. Elle découvre que pour entrer dans un magasin, bah, y a des marches. Et que pour se faire faire une épilation chez l'esthéticienne, il faut passer par un escalier en colimaçon. Et que l'esthéticienne trouve gênant de laisser le fauteuil dans son entrée. Vous comprenez, les clients. Et la même quand elle a terminé.
Ça y est, c'est fini.
Mais elle dit ça à sa mère. Elle ne dit pas ça à Christelle. Et en vérité, quand elle rentre chez elle, Christelle s'aperçoit qu'elle est très mal épilée. Et elle pleure. L'esthéticienne a dû se dire qu'elle était trop handicapée pour s'en rendre compte. Je jure devant Dieu que plus personne, plus jamais, ne me regardera avec ces yeux-là. Trois mois après son accident, Christelle rentre enfin à la maison. Mais elle n'a toujours pas de souvenirs. Sa mère ouvre les albums photos.
C'est qui, tous ces gens? Eh bien, c'est la famille, hein? Et tes amis. C'était le jour de tes 18 ans. C'était il y a 6 mois.
Et quand la rentrée approche, elle n'a qu'une seule obsession. Elle veut passer son bac.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une expérience de mort imminente. L'histoire de quelqu'un qui a un accident et qui, d'en haut, se voit mort. Histoire qu'a vécue Christelle Cahana-Caillot et qu'elle raconte dans un livre paru en 2009 chez O Éditions. « Je suis sorti de mon corps ». Christelle a un accident de voiture dans la région de Versailles le 8 juin 1992. Et elle se voit, elle voit son corps à terre. Dans le coma, elle entend ce que disent les visiteurs et raconte qu'elle doit s'accrocher à une corde pour ne pas se faire entraîner dans un tunnel merveilleux. Au bout de 5 semaines, elle parvient à s'extraire du coma, mais au réveil, sa mémoire est effacée. Et elle est envoyée pendant 3 mois dans un centre de rééducation. Quand elle en sort, elle n'a pas récupéré toute sa mémoire, mais elle a une obsession.
Je veux passer mon bac, docteur. Attendez encore quelques mois pour vous rétablir. Non. La rentrée, c'est dans 15 jours. J'y serai.
Et 3 mois après son accident, elle retourne en terminale dans son ancien lycée. Quelques jours avant la rentrée, elle est à fond.
Couche-toi, ma chérie. Il est 2 heures du matin. Non. Je vais encore écrire quelques mots.
Quand Christelle écrit le mot « papa » sur une feuille de papier A4, il tient désormais dans un carré de 5 cm de côté. Elle a fait des progrès, mais il lui reste d'énormes lacunes. Le jour de la rentrée, les autres la regardent comme une revenante. Il est vrai qu'elle est un peu en décalage.
Hé les gars, chouette, la prof est malade. Non mais ça va pas te dire ça. Tu te rends pas compte de la chance qu'on a d'aller au lycée et de nous instruire? Et en plus pour toi c'est facile d'apprendre. Alors arrête de toujours te plaindre.
Et petit à petit, Christelle redevient de plus en plus normale. Elle écrit mieux, elle comprend mieux. Et arrive le jour tant attendu, le jour des résultats du bac. Elle a passé son bac avec une attestation de handicap. Elle a eu 1/3 de temps supplémentaire pour écrire et préparer ses oraux. Elle s'approche du bureau où se trouve l'homme qui a les résultats.
Voyons, voyons. Félicitations, mademoiselle. Vous avez été reçue avec de très bons résultats.
Allemand, 16 sur 20. Anglais, 11 sur 20. Et là, pile à ce moment, quelque chose d'inexplicable se produit. Des flashs de sa vie lui arrivent de toutes parts. Elle voit revenir des images de toute sa vie. Tout se remet en place. Et quand elle rentre chez elle, pour la première fois, elle reconnaît la maison. Elle reconnaît l'escalier où elle est tombée quand elle était petite. Elle vient de retrouver sa planète.